Dans Matthieu 18, c'est un texte très précieux. Vous savez, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, emploie le mot « ecclésia » à deux reprises. Et c'est significatif parce que c'est le mot « église ». C'est le mot « assemblée », »,« appelée », »,« hors de ». Et Jésus l'utilise dans des contextes très significatifs. La première fois, c'est au chapitre 16, déjà on l'a vu, lorsqu'il dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et la deuxième occurrence, c'est dans notre texte aujourd'hui, on va juste lire les versets, la parabole on va la lire après, là, fait que là, on va juste lire les versets 15 à 20. C'est tellement précieux comme passage, il faut le considérer, je vais parler avec frère McEwen. Des fois, on l'a pris comme micro, de façon un peu comme très isolée, puis « Ah, c'est la discipline de l'Église », mais quand tu regardes dans un contexte plus large, c'est la restauration de la brebis perdue, juste qu'il venait de parler avant, puis le pardon, toute la parabole qui vient avec, c'est vraiment un contexte restaurateur, merci. Ben, restaurateur, c'est quelqu'un qui a un restaurant, ça? En tout cas. La restauration, en tout cas. Mais donc, c'est ça, fait que c'est vraiment important de le comprendre dans son contexte, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est la deuxième fois qu'on va voir le mot « église », allez voir, au verset 17. Donc, on commence, on va juste lire le texte, puis ensuite, je vais vous donner des choses qui, je pense, sont vraiment importantes pour nous comme église. « Si ton frère a péché, verset 15, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. » Ça, c'est tout le bagage de l'Ancien Testament, en passant. C'est pas Jésus qui a inventé ça comme sur le champ, là. Ça venait de la loi de Moïse. « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Il avait parlé de ça, hein? C'est pour ça que je l'ai cité tantôt. Puis là, regardez au verset 19. Je vous dis encore que si deux ou trois s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hein, vous vous rappelez qu'on a parlé, hein, quand on parle, on dit une symphonie de la prière, deux ou trois s'accordent, c'est le mot symphonie. Mais dans le contexte, voyez-vous encore là, l'idée c'est de restaurer l'unité, de restaurer les relations. C'est pas de mettre quelqu'un dans un coin puis donner un bon coup de poing pour y régler son cas, c'est de le ramener, c'est de gagner notre frère. OK? On va regarder ça ensemble. Mais avant, je veux juste vous donner quelques petites remarques. J'ai dit que, bon, on l'a vu ici, puis j'ai cité dans le chapitre 16 que Jésus emploie les expressions « liées » et « déliées ». Ce sont des expressions qui parlent de l'autorité déléguée à l'Église locale, comme la nôtre. C'est pas les pouvoirs papales qui ont été donnés à Pierre, OK? Mais c'est, tu sais, une Église comme la nôtre, où est-ce que, tu sais, on observe les ordonnances du Seigneur, tout ça, donc... on est une église locale, rassemblée, on est appelé à confronter le péché, à s'occuper des problèmes, et c'est une autorité déléguée, okay, par Christ lui-même. Une autre chose qui est aussi importante à comprendre dans ce sens-là, c'est pas notre autorité qu'on exerce à notre guise, c'est l'autorité déléguée par le roi. Hein, Matthieu nous présente Christ comme le roi. Donc, c'est pas moi qui décide de faire ça, parce que moi, j'aime pas ça, puis alors, je suis pas content que la personne m'a dit ça, puis là, je vais le discipliner, je vais aller convaincre le pasteur, puis c'est pas ça l'idée. C'est tout par rapport à Christ qui est le chef de l'Église. Et c'est lui qu'on veut honorer, c'est lui qu'on veut suivre. Tout ça, c'est par rapport au roi. Une autre chose que je veux juste vous dire en guise d'introduction, c'est que tout ce l'exercice de l'autorité, de ce qu'on appelle la discipline de l'Église, c'est pas la première affaire qu'on fait quand on a un différent. Ça, c'est plus un dernier recours. Quand on arrive au point où est-ce que là, Tu sais, il faut aller voir quelqu'un, puis là, il veut pas comprendre, puis OK? C'est vraiment l'idée face à de l'endurcissement, face à quelqu'un qui persiste dans une mauvaise voie. C'est pas comme l'espèce de recette qu'on sort à toutes les fois que là, quelqu'un qu'on n'est pas content, puis OK? Donc, c'est juste des romans comme ça d'introduction pour situer un peu l'idée, la pensée de notre texte. Mais encore plus loin, le titre de mon message, c'est « Prévenir au lieu de guérir ». Et c'est ça vraiment que je veux mettre l'accent dans notre message. Vous allez voir, en étudiant le texte, vous allez bien le voir clairement. L'idée de la discipline de l'Église, c'est de prévoir les coups en mettant en œuvre des mécanismes. Jésus nous donne un peu des mécanismes ici, là, si vous voulez, si je peux prendre l'expression, pour éviter d'arriver à l'excommunication, pour éviter de... On ne veut pas arriver là. On veut aider la personne à arriver à la repentance. On veut aider la personne à voir son péché. OK? Comprenez-vous? L'idée, c'est prévenir le pire. C'est d'aller voir pour aider. L'idée, vraiment, on veut gagner notre frère. On ne veut pas le condamner. On veut le gagner à Christ. OK? Et c'est pour ça que je pense que le point le plus important, OK? Là, je me rappelle plus ce que je vous ai dit tout en détail, mais je parlais tantôt, peut-être je ne devrais pas faire ça, parler du message avant le message. Là, je suis un peu mêlé ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, mais je pense, en tout cas, tantôt, je disais à Frère McEwen que ce qu'on a vu juste avant, c'est la parabole des brebis perdues, de la brebis perdue. 99 sont laissés pour une. Donc, l'idée, hein, puis ben, on peut le relire, là, c'était au verset 14, « De même, ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux qu'il ne se perde un seul de ses petits. » Tu sais, l'idée, c'est Dieu veut retrouver celui qui est perdu. Dieu, c'est ça le cœur. Puis, encore plus loin, quand on avance avec la parabole qu'on va lire plus tard dans le message, dans les versets 21 jusqu'à la fin du chapitre 18, il y a toute l'idée du pardon. Et ça, je pense, c'est ce qui est central. Trop souvent, on parle de l'exercice de la discipline de l'Église comme un exercice disciplinaire en tant que tel, alors que toute l'idée, le parfum de tout ça qui s'en dégage, c'est le pardon. La restauration par le pardon. Parce que c'est quoi? Le péché, c'est se blesser les uns les autres. On se fait mal avec le péché. Okay? Je suis égoïste, je fais mal à l'autre. L'autre est égoïste, il me fait mal. Puis là, c'est ça le péché, n'est-ce pas? Ben, qu'est-ce qui va restaurer ça? Le pardon. Puis tout ça, c'est à la lumière du pardon de Christ. Ça dit dans Colossiens 3:13, « Supportez-vous les uns les autres. » Et si là, un sujet de se plaindre, OK, justement, comme, OK, se plaindre de l'autre. Pardonnez-vous réciproquement. C'est quoi la mesure de ce pardon? De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je pense que c'est ça l'esprit qui animait Christ quand il donnait l'enseignement ici. Et j'espère qu'on va le voir comme il faut ensemble. Mais juste pour dire que cette idée du pardon, je pense que c'est la meilleure des préventions pour que les problèmes s'enveniment. C'est pas une chose secondaire. Je pense que c'est le secret de la puissance de notre texte ici et d'une église qui prie. Parce que quand ça dit, je vous dis encore, verset 19, si deux ou trois s'accordent. Pour s'accorder, il faut être en harmonie, en esprit. Deux frères qui sont pas capables de se sentir la face, ils s'accordent pas. Parce que si on s'est fait du mal, on se pardonne pas, on n'est pas en accord. Fait que là, on vient de court-circuiter, de demander quelque chose dans le nom qui va nous être accordé parce qu'on s'accorde pas. Il n'y a pas de pardon. OK? Maintenant, vous savez, dans une église, tout le monde arrive avec son bagage. Quand on dit ça en français, bagage, ce n'est pas toujours négatif. En anglais, souvent, quand on parle de bagage, c'est négatif. Ah, lui, il a du bagage. Mais quand je parle ici, je l'emploie. Tu sais, on arrive avec nos bébites, avec nos squelettes dans le placard. On a tout. Notre nature pécheresse, nos histoires, OK? C'est ça la vie d'une église, je veux dire. C'est pas des gens parfaits qui viennent célébrer la perfection. C'est des gens imparfaits qui viennent célébrer la perfection du Sauveur, OK? Et dans une église comme la nôtre, lorsque la restauration des relations, le pardon, quand ça c'est compris, c'est exercé, c'est vécu, c'est une manifestation de la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église va servir à ça. On l'a vu la semaine passée, vous rappelez-vous, dans Éphésiens 3, c'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, par une Église imparfaite comme la nôtre, puis là, bon, dans le contexte plus large, même le corps de Christ, mais ça, C'est plus large, mais même localement, toutes ces dominations-là connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, parce que Dieu prend des gens tout croches comme nous autres, puis fait de quoi de beau. Ça prend quelqu'un de sage pour faire ça. Ça manifeste quelque chose sur notre Dieu lorsque ça s'est vécu. Pour ça, je vous dis, c'est pas par rapport à nous. Pas par rapport à lui, j'aime pas ça ce qu'il m'a fait, elle n'est pas gentille. Puis non, on vit pour quelqu'un de plus grand que nous. C'est Dieu, puis c'est lui qu'on veut manifester. Donc, on a besoin de comprendre bibliquement ce passage-là, le pardon, parce qu'on ne veut pas être un frein à ce que Dieu fait dans une église locale comme la nôtre. Et donc, on va voir trois actions dans notre texte pour transformer le problème en réconciliation. Parce qu'il y a des problèmes, mais pour que ça soit transformé en réconciliation. OK, d'abord, au verset 15 et 16, on voit qu'il faut affronter bibliquement le problème. Il faut affronter bibliquement le problème. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Puis ensuite, ça continue. S'il refuse, on y va devant l'Église. OK? Affronter bibliquement le problème. J'ai vraiment l'expression ici, je veux qu'on remarque, ça dit « va et reprends-le ». Et ça, c'est pas une mince tâche. C'est pas à prendre à la légère. Pourquoi? Parce qu'il y a deux tendances naturelles qu'on peut avoir pour confronter et qu'il faut éviter absolument. La première, ignorer l'offense. Donc, ne pas confronter ou tellement mollement que c'est pas de la confrontation. OK? Essayer de mettre le problème en dessous de la couverte. Ça, par peur, par lâcheté ou un mélange des deux. Quelqu'un qui tombe dans ce piège tombe aussi inévitablement dans toutes sortes d'autres pièges. Tolérer le péché, ou se mettre à commérer. Ah, t'as-tu vu ce qu'il a fait, toi? Mais t'en parles pas à la première personne intéressée. C'est-à-dire, il faut aller voir la personne, ça dit va, puis reprends-le, pas va, puis dis à tout le monde ce qu'il a fait. Non, mais c'est un piège que, par peur, par lâcheté, dans lequel on peut tomber. Ça dit va et reprends-le. Parce que faut pas s'y tromper. Si on confronte pas le problème, lui va nous confronter un jour. Il va dire, si tu mets les problèmes en dessous du tapis, à un moment donné, ça va sentir mauvais en dessous du tapis, puis il va commencer à se passer des affaires-là que, OK, c'est la force des choses. Comme une femme qui venait d'acheter une maison, puis là, c'était au début de l'été, puis elle voit une abeille dans sa maison. Oh, peut-être qu'elle rentrait par la fenêtre. Oui, une ou deux, tu sais, elle n'en fait pas un cas. L'été passe, puis à la fin de l'été, le plafond dans son salon s'est effondré sur le poids. Il y avait des abeilles, puis là, ça fait des ruches, c'est du miel, c'est lourd. Le gypse a lâché, puis imagine-toi, là, il était pas content, là, les abeilles, fait qu'elle s'est fait attaquer, puis tout ça. C'est une image de la négligence. On voit un problème, puis on le laisse aller. Ça va finir par faire de quoi? Ça va nous piquer. OK? Si on s'occupe pas de nos problèmes, ils vont s'occuper de nous autres. Donc, remettre la confrontation du problème avec quelqu'un à plus tard, ça ne fait que le empirer. Ça ne va pas le régler comme par magie. Les conséquences vont frapper tôt ou tard. Et donc, au lieu de restaurer la relation, la négligence ne fait que la gâter. Mais il y a une autre tendance qu'on peut avoir, au lieu d'affronter bibliquement le problème, on peut exagérer l'offense. Puis prendre ce que j'ai pris l'expression, prendre un 2x4 pour tuer une mouche. Peut-être tuer la mouche, vous allez briser pas mal d'affaires avec, tu sais. Ça peut marcher. Ou prendre, tu sais, un 12 pour tuer une souris. Tu sais, vous allez tuer votre souris, mais vous risquez de faire des dommages collatéraux. OK? Exagérer l'offense. Ça, on fait ça par orgueil. Un, c'est par peur ou par lâcheté. L'autre, c'est l'orgueil et la jalousie. Ou un autre type de réaction comme ça, poussée par la chair. Et évidemment, ça ne règle pas plus le problème. Pourquoi? Parce qu'elle voit la personne comme un problème et elle s'attaque à la personne au lieu du problème. Donc, elle ne règle ni l'un ni l'autre. Elle n'aide pas la personne et elle ne règle pas le problème. Et si on a tendance à cette façon de réagir, il ne faut pas oublier que le but, c'est de détruire le problème et de construire la personne. Mm-hmm. Évidemment qu'on veut s'occuper des problèmes. Il ne faut jamais négliger le péché. Puis il faut pas. OK, on vient d'en parler avec la tendance précédente. Mais on ne veut pas détruire la personne. Elle est précieuse. Elle est précieuse aux yeux de Dieu, puis on veut que les choses aillent mieux pour cette personne. Et donc, ça veut dire quoi d'abord à confronter le problème bibliquement? La Bible ici, ça dit « va » et « reprend ». D'abord, ça demande d'aller vers l'autre. Il y a un désir de rejoindre l'autre. Il n'y a pas une ignorance indifférente, mais ça ne dit pas aussi, tu sais, reprends-le, ça ne dit pas détruis-le, puis donne-y une ramasse, comme on dit au Québec. Là. Non, va et reprends-le. Donc, il y a une façon de le faire. Et je dirais que l'équilibre biblique entre la négligence et une approche destructrice, on la trouve dans la suite de ce qu'on va lire, où est-ce que le péché n'est pas ignoré, mais la restauration est recherchée. Okay? C'est vraiment ça la clé. Donc, ça m'amène au deuxième point. Non seulement il faut affronter le problème bibliquement, mais il faut traiter le problème bibliquement. On avait arrêté à 17, on continue. S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore que si deux ou trois s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Traitez bibliquement le problème. Notez que le but ici, c'est la réconciliation. Parce que ça dit, si vous vous accordez, puis quand vous vous assemblez, c'est pas juste dire, on est un rassemblement est assemblé, c'est plus juste qu'on est des gens un à côté de l'autre. On est assemblé dans le nom du Seigneur. Il y a une unité spirituelle. C'est pas un club social, c'est pas des gens qui attendent dans une salle d'attente. Non, non, c'est des gens qui sont unis à cause du Seigneur. OK? Donc, tout le langage qui est ici, il y a l'idée de réconciliation, que là, on se voit, puis on a une communion, puis le courant passe. La vérité dans l'amour avance. OK? C'est ça l'idée ici. Maintenant, comment on arrive à cette réconciliation-là? Par la repentance. Ça prend la repentance, parce que là, ça part, bon, on a vu, hein, s'il n'écoute pas un, s'il n'écoute pas deux ou trois, s'il n'écoute pas l'Église, il est vu comme un païen. Ça, là, c'est la voie de l'endurcissement, c'est jusqu'où là ça arrive. En passant, vu comme un païen, ça ne veut pas dire de le renier, de le traiter comme de la boîte. Si vous traitez des païens de même, vous n'allez pas gagner grand monde à Christ. Mais une fois, vous allez à l'épicerie, là, vous dites, t'es ben donc. Mais non, c'est juste que tu le regardes comme un non-sauvé. C'est que là, il n'écoute pas, il est en train de montrer qu'il s'endurcit contre la vérité, contre Christ, puis là, tu dis, ben, je peux pas t'appeler frère. Mais je t'haïs pas, puis je te renie pas. Mais j'ai déjà vu des gens faire ça, parce que, exemple, leur enfant était tombé dans le péché, ont pris des mauvaises décisions, ils veulent plus parler à leurs enfants, ils veulent plus... Mes amis, c'est pas ça, pantoute ici, l'idée, c'est certainement pas l'esprit de Christ. Parce que regardez comme un païen, là, je veux dire, c'est pas comme être méchant avec la... On devrait pas être méchant avec personne. Christ, comment il était avec les païens? Il était très doux, puis il allait vers eux autres, la femme samaritaine, puis, tu sais, il y a plusieurs, puis bon, puis, je n'ai pas besoin de vous donner 100 000 exemples, là. Hein?
Dans l'espoir de restaurer,
c'est ça. Non, oui, c'est ça. Donc, l'idée de la réconciliation vers la restauration de la relation. Maintenant, si je n'ai pas la restauration de la relation par une réconciliation, il n'y a rien de réglé. Mettons que le pardon est juste à sens unique. Okay, pardon de pardon versus réconciliation. Juste mettre les choses au clair. Le pardon est inconditionnel. Quand quelqu'un m'offense, je dois être prêt à pardonner. Pourquoi? Parce que comme Christ... Est-ce que Dieu... Tu sais, ça dit comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous les autres. Fait que j'attends-tu que l'autre ait été assez gentil? Non, je devrais être disposé de pardonner tout de suite dans mon cœur. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est réconcilié? Non. Pour la réconciliation, ça prend la repentance. Mais même si la personne ne s'est pas repentie, mettons justement, on parle de quelqu'un qui a fait quelque chose, puis là, il est endurci, il ne veut rien savoir. Je devrais quand même avoir une disposition favorable. Je devrais pardonner dans mon cœur pour être prêt à recevoir cette personne lorsqu'elle va se repentir. Ma disposition n'est pas hostile. Ma disposition est d'avoir pardonné comme moi j'ai été pardonné en Christ. Parce que Dieu, comment il nous a accueillis? Il était favorable, il n'était pas hostile à nous à cause de Jésus-Christ. On est venu à lui comme des gens qui l'avaient transgressé sa sainte loi, qui l'avaient offensé, puis il nous a accueillis. Puis là, on a été réconciliés. Comprenez-vous? Mais le pardon à la croix, tout est accompli, là. Mm-hmm. Puis nous, on a été réconciliés lorsqu'on s'est repenti. Donc, le modèle entre le salut puis la restauration entre les frères, c'est vraiment directement relié. Parce que pensez-y, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont tous disposés à recevoir les pécheurs. Amen. Le Père a envoyé son Fils, le Fils est venu accomplir la rédemption, puis le Saint-Esprit, il attire vers Christ, il convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Je veux dire, tout est favorable face aux pécheurs rebelles qui ne veulent rien savoir. Voyez-vous la disposition? C'est ça aussi ce qui doit nous animer dans les relations fraternelles. Même si ce n'est pas réconcilié, on doit être prêt, aussitôt que l'occasion se présente, à être réconcilié. Pourquoi? Parce qu'on a déjà le pardon dans nos cœurs. Puis on peut lutter avec ça. Des fois, on peut avoir été blessé et tout ça, mais ça, on demande à Dieu. Dieu, aide-moi à vivre à la lumière de ton pardon. Puis je veux pas, moi, parce qu'on va le voir là, dans la parabole, c'est exactement le point de la parabole, tu m'as tellement pardonné. Aide-moi à me rappeler de ça, que moi, c'est pas grand-chose que tu me... Hey, les deux dettes, on va voir ça dans un instant, OK? Donc, l'attitude doit être réceptive face à l'offenseur. On l'a vu, hein, ça dit « va ». C'est même plus que réceptif, c'est proactif. On cherche la réconciliation. Mais la relation, c'est la Dieu vérité, ne peut être restaurée que s'il n'y a que repentance. Bon, être tout disposé, si la personne ne veut pas, puis elle veut s'endurcir, il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas de restauration. Ça prend deux parties pour ça. Tu sais, comme Dieu a tout accompli, il est mort sur la croix. Mais dire, les gens ne vont pas sauver tant qu'ils ne vont pas à Christ pour recevoir ce pardon. Dieu a tout fait, là, mais ça ne va pas arriver tant. OK, fait que c'est exactement pareil ici. Maintenant, je pense qu'on a une image avec ça, avec le fils prodigue. Il a été méchant envers son père, il demande de l'héritage, il en va tout dépenser, puis c'est vraiment... Il déshonore son père au plus haut point, je veux dire, il traîne son nom dans la boue, vraiment, c'est ce qu'il fait. Son père, qu'on le voit selon la parabole, est un homme riche, et tout ça, honorable, puis tout ça, puis... Mais il rentre en lui-même, il voit son péché, puis il va vers son père. Et encore là, on voit quelle est la disposition du père. Le père est même prêt à se déshonorer pour l'honneur de son fils. Parce qu'un père riche qui courait à l'époque, qui lève les pans de sa robe, là, ça se faisait pas, ça, là. Un riche, ça marchait, là. C'est un autre qui courait pour lui, là. Vous allez voir, les rois, là, tu sais, puis tout ça, il y avait des coureurs. Non, mais c'est vrai, là. Mm-hmm. Fait que lui-même prend la honte. C'est vraiment une image de Christ avec le pécheur. Maintenant, je veux juste donner une mise en garde ici. Par rapport à l'amertume, parce qu'on parle de traiter bibliquement le problème, d'aller vers l'autre de la disposition. Ce qui va tuer cette disposition, c'est lorsqu'on se prive la grâce de Dieu à ce que des racines d'amertume poussent des rejetons, produisent du trouble, puis qu'on en est infecté. C'est néfaste pour tout le monde. Regardez l'attitude contraire. Je vous lis quelques... béatitude qui vraiment montre ça. Il y en a un, c'est l'amertume. « Ah, tu m'as fait mal, je vais te rendre l'appareil, je ne veux pas recevoir. » OK, on a vraiment une disposition là. Puis regardez, écoutez, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Il y a comme un building up de plus en plus vers cet esprit de réconciliation, de restauration. Ça m'amène au troisième point, et c'est là notre parabole. Non seulement il faut affronter le problème bibliquement, il faut le traiter bibliquement, mais il faut le résoudre bibliquement. Et là, on va parler de pardon. On va lire la parabole à partir du verset 21. « Alors Pierre s'approcha de lui, Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» lorsqu'il pêchera contre moi. Serais-je jusqu'à 7 fois? Puis là, il dit, hey, là, je suis généreux. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire pas de limite. Okay? C'est une expression qui veut dire, mais pas de limite. Puis là, Jésus continue avec une parabole. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Ça, en passant, là, ça, c'est ce qu'on mérite en tant que pécheur devant Dieu. Je veux dire, on mérite le jugement et d'être vendu à ce monde et tout ça. Mais là, regardez, le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant lui, il dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Tough luck, mon ami, parce qu'en passant, ça ne se payait pas, mais bon, il y avait des bonnes intentions, disons, là, mais bon. Verset 27, « Ému de compassion, le maître de ce serviteur, le laissa aller et lui remit sa dette complètement. » Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. OK? Une somme importante, mais beaucoup moins importante. Il le saisit et l'étrangla en disant, « Paie tout ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Même chose qu'il venait juste de dire à son maître. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il l'ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Là, c'est là que ça punch, comme on dit. Là, c'est là le gros de la leçon. Pierre ici avait soulevé une question. Tout ça a commencé avec une question par Pierre. Notre cher Pierre, on l'aime donc, ce Pierre.
Amen.
Amen. Et là, il pose la question... Par rapport à la difficulté du pardon, dans le fond, il était honnête, puis il dit, « Ouais, mais hey, là, pardonnez mon frère. » Puis moi, je vous dis, je pense qu'il dit, hey, « Je vais être généreux, là, je vais paraître comme assez spirituel, je vais dire 7 fois. » Je pense vraiment que selon son évaluation éthique, il va dire, pour moi, le Seigneur va dire, « Hey, oui, way to go, Pierre, tu l'as. » Mais non, il dit 70 fois 7 fois. Tu sais, comme ben outil. Autrement dit, Pierre, tu l'as pas pantoute. Mais le point ici, le point que Jésus amène, puis il l'amène à la parabole, okay, avec la parabole, okay, parce qu'il répond à Pierre avec la parabole, c'est que notre capacité à pardonner est directement reliée à notre reconnaissance de notre pardon. Pourquoi je pardonnerais quelqu'un qui m'a offensé? À cause que j'ai été pardonné. Puis plus je vois comment j'ai été pardonné, comment ce pardon-là est grand, plus je suis disposé à pardonner un autre. Pourquoi? Parce que l'ordre de grandeur est jamais comparable. Puis tu te rends compte tout le temps, c'est pas grand-chose dans le fond. Ce que moi j'ai fait subir à Christ, que lui a souffert pour moi, le prix qu'il a payé, comparé à ça, ce que moi j'ai vécu, comprenez-vous? C'est vraiment ça le gros de la leçon sur le pardon ici. Il y a un lien direct entre les deux. Et je vous relis, je vous l'ai lu tantôt, mais ça dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ, c'est ça l'idée de la parabole, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » OK? Maintenant, comment en arriver là? La parabole termine en employant l'expression « pardonner à son frère de tout son cœur. » En fait, c'est pas juste pas facile. Parfois, ça peut même être impossible. Tu dis, j'ai juste pas ça en moi. Mais là, ça fait trop mal, c'est trop injuste, c'est trop pas correct, ça fait trop longtemps. Des fois, c'est moins grave, des fois... Mais l'idée, c'est qu'on veut pas du superficiel, on veut du vrai, du authentique. Et lorsque la grâce de Dieu est là, lorsque Dieu... La grâce de Dieu, c'est « divine enablement ». Lorsque Dieu donne la capacité, lorsque Dieu donne la capacité, le pardon est possible. Et c'est là vraiment qu'on voit que toute cette idée de restauration, de réconciliation, de discipline de l'Église, c'est qu'on voit, c'est pas juste un méchant qui a fait de quoi. Souvent, c'est quoi, c'est deux méchants, il y en a un qui est tellement, il peut devenir tellement offensé, puis tout ça. S'il tient son bout, puis il veut juste traiter l'autre durement, c'est-à-dire, t'es pas rien avec deux là, qui ont le cœur dur. Comprenez-vous? C'est pas pour dire qu'un, c'est, t'sais, c'est à l'excuse qu'il a faite. Mais ça prend cette disposition-là, puis faisons face aux choses. Tu sais, des fois, il y a des choses qui sont arrivées, on est blessé, on n'est pas content, on a en nous un désir, on veut que la personne paye pour ce qu'elle a fait. Il y a juste moi qui ai déjà pensé ça dans ma vie. Ah, tout le monde me regarde un peu pas trop sûr. Hein. Il y a quelque chose de la justice de Dieu là-dedans. Parce que Dieu est juste, puis tout ça. Mais le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais ce sentiment-là, comment on en est libéré? Ce qu'on voit ici avec la parabole, toute l'idée avec la mesure de Christ, comment on en est libéré? Dans le fond, c'est simple, pensez à ça. Quand je suis concentré sur l'offense de l'autre, quand je vois ce que l'autre me doit puis que je l'égorge jusqu'à temps qu'il me donne le dernier centime, mon focus est tout ce que l'autre a fait et tout ça. Le problème de ce gars-là dans la parabole, il avait oublié d'où il était sorti. Il avait oublié que les mots même que le gars il disait, c'est les mots même que lui avait dit à son Seigneur. Il avait oublié ça. Fait comment être libéré de cette emprise et dire c'est non même pas correct? Se rappeler comment nous on est devant Dieu. On est ce quêteux-là qui dit puis Seigneur, aie pitié de moi. Là, je vais vous donner une petite leçon là-dessus. C'est sûr que c'est arrivé à tout le monde ici. N'est-ce pas vrai qu'on a tendance à être pas mal moins dur avec les gens lorsque le Seigneur met le doigt sur notre péché? Tu sais, des fois, tu es là, puis « Ah, ça n'a donc pas de bon sens, lui, comment qui? » Puis là, le Seigneur nous montre à nous notre péché, puis là, il met le doigt dessus. Là, on se rassure, on dit « Ouais, c'est-tu, finalement? » C'est vrai, hein? C'est ça, l'idée. C'est-à-dire, l'autre n'est pas pire que toi. Il n'est pas mieux. On est tous dans le même bateau. Quand tu es tellement concentré que l'autre, c'est donc bien méchant, tu es égocentré. Tu penses juste à toi. Tu regardes juste comment toi, ça te dérange. Puis tu as un petit pity party. Un petit. Tu tapis-toi sur toi-même. Puis tu oublies ce que Christ a fait. Tu oublies que les mots que la personne te dit. Puis en plus, c'est déjà quand même plus idéal. La personne, elle demande pardon. Puis l'autre, il ne veut pas. Mais des fois, la personne, elle ne veut même pas demander pardon. Elle ne veut rien savoir. Est-ce que nous, des fois, on ne veut rien savoir de Dieu, puis Dieu nous court après, puis qu'il nous... N'est-ce pas? Il ne faut jamais qu'on oublie ça. C'est ça la clé ici, de voir d'où on est sorti. J'aime tellement ce verset-là. Ésaïe. C'est mon frère qui m'a lu ça hier. Ésaïe 43. Regardez... Hein? Ouais. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrassera pas. Ça, c'est l'amour de Dieu. Je t'appelle par ton nom. Tu es précieux pour moi. Et nous, on serait dur envers quelqu'un. C'est là que je dis, mes amis, il faut qu'on se rappelle d'où on est sorti. Donc, je termine avec cette pensée, après-midi. On veut régler le problème, résoudre le problème bibliquement. La résolution, elle est lorsque le pardon est réel et complet. Je l'ai déjà dit, puis je le répète, si deux gens se font juste s'entendre à s'endurer à face, ou dire, OK, toi, t'es là, puis là, puis on se parle pas. Ça, c'est pas de la réconciliation. Ça, c'est une mascarade. C'est une pièce de théâtre. La réconciliation, c'est quand les deux se voient, qu'ils se font une colle, qu'ils prient ensemble, qu'ils chantent ensemble, puis que c'est même mieux que c'était avant. Ça, c'est de Dieu. Le reste, l'homme peut bien faire ce qu'il veut. Mais ça va jamais... Ça, c'est ça ici. C'est ça la discipline de l'Église. C'est ça toute l'idée de ce qu'on a vu. C'est la puissance du pardon. Et donc, je vous laisse avec cette pensée. On vient de voir un passage bien important. On parle de la discipline de l'Église. OK? Et il faut savoir, dans le fond, comment c'est important, parce que Jésus ici parle, j'ai dit, il parle de l'Église et tout ça. C'est un peu comme dans le fond, le 1 Timothée 3:15 des Évangiles. Tu sais, quand Paul il dit à Timothée, si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne d'appui de la vérité. Et donc, ici, Jésus, tu sais, dit, c'est comme ça qu'on se conduit dans la maison de Dieu. On se pardonne, on restaure, on va vers l'autre. On a cette attitude qui veut réconcilier. Parce que maintenant, des fois, on aimerait mieux se débarrasser du problème. Problème égale personne. Fait que tu te dépasses la personne, j'ai plus de problème, ça va bien. C'est pas ça l'esprit, pantoute, de la discipline de l'Église. Pas une scène, pantoute. Et ça, on fait ça avec le pardon, par la foi, à la lumière de ce que Christ a fait. Et je vous donne une illustration pour terminer. Le National Geographic avait, dans un de ses numéros, avait une photo de fossiles de 2 tigres à dents de sabre, Sabertooth Tiger. Et ces tigres-là étaient morts, étaient fossilisés, les dents chacun enfoncées dans la cuisse de l'autre. Fait qu'ils étaient, rah, ça sautait un peu, puis ils étaient comme jamais là, puis ils en sont morts. Ça, c'est une image de ce qui arrive avec 2 chrétiens qui se pardonnent pas, puis qui restent camper. Puis n'est-ce pas ce que la Bible dit dans Galates? Mais si vous vous mordez, si vous dévorez les uns les autres, prenez garde à ce que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Il ne faut jamais oublier ce que Christ a fait pour nous. Vive à la lumière de ça. Puis là, les offenses des autres. On parlait ce matin, quand Dieu est proche, le monde est comme pas mal plus loin. Il perd de sa puissance sur nous quand il y a un char dans notre cœur. La même chose, quand on vient à la lumière du pardon de Christ, les offenses des autres, ça les remet à leur place. On va prier. Seigneur, on te remercie pour ta grâce en Jésus-Christ. On est ses serviteurs qui, de façon insensée, disent, on va tout torpiller. Impossible. Mais merci que dans ta grâce, tu t'as remis complètement notre dette. La dette impayable du péché. Merci Seigneur que c'est parfait, c'est complet, par la réconciliation du calvaire. Ah Seigneur, on veut vivre à la lumière de ça. Et considérer les offenses qu'on a. On se fait du mal les uns les autres, on a des blessures dans nos cœurs. C'est authentique, c'est vrai Seigneur, tu ne prends pas ça à la légère, c'est vrai. Mais c'est relatif quand on le compare à ce que nous on te fait, comment nous, on te traite souvent. Ah, Seigneur, qu'on vive à la lumière de ces choses grandioses. Seigneur, bannis toute amertume, toute animosité, toute colère, toute médisance du milieu de nous. Ah, mais qu'à ceux-ci tous connaissent que nous sommes tes enfants, à l'amour que nous avons les uns pour les autres. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.